Im Wald, eine Kulturgeschichte.
Dans la forêt, une histoire culturelle. Le podcast de l'exposition du même nom à écouter dans l'exposition ou en se déplaçant. Dans cet épisode.
In dieser Episode.
Ja, der Gedanke war wirklich ein Gebiet.
Oui. L'idée était vraiment de laisser une région complètement livrée à elle-même. Mais en même temps, d'explorer comment cette région évolue lorsque l'homme n'intervient plus.
In dieser Episode geht es darum, wie der Wald.
Comment la forêt d'Eglandine a été coupée à blanc? Comment trois hommes ont fait en sorte qu'elle devienne une forêt sauvage et un parc national? Faisons un voyage dans le temps pour revenir au début du XXe siècle. Oui, si l'on s'imagine, au début du XXe siècle, c'était une région pauvre ici,
Un armes Gebiet hier im Engadin.
Das ist Hans Lotzer,
Autor. Voici Hans Lotzer, auteur, photographe, responsable de la communication au Parc national suisse.
Und der Name Ofenpass, der verrät es ja bereits.
Et le nom Ofenpass révèle que les forêts du parc national étaient déjà exploitées de manière intensive pour la production de bois. On a rasé des surfaces entières et on les a utilisées pour l'exploitation minière afin de pouvoir faire fonctionner ces fours à fusion qui ont justement donné leur nom à la région. On a également utilisé le bois pour la charbonnerie et pour la production de chaux vifs employés dans la construction.
Was sich hier zeigt im Gebiet zwischen Ofenpass, Zernetz, Susch bis hinunter nach.
Ce qui se passe ici dans la région entre le col de l'Offen, Zernel jusqu'à Charles et Susch a une longue histoire. Elle est liée à la pauvreté. À l'appât du lien.
Es waren verschiedene Ereignisse, aber das Zentrale war schon die Bergbaunutzung im 16. 17. Jahrhundert.
Il y a eu différents événements. Mais principal était l'exploitation minière au 16e siècle, au 17e siècle et plus tard. Surtout au 19e, on vendait encore du bois aux salines de Hol au Tirol. Elles ont exploité d'énormes quantités de bois et, lorsque les forêts du Tirol ont été pillées, elles ont naturellement continué de remonter l'Inn et se sont retrouvées en Engadine. Où elles ont continué à exploiter les forêts.
Und das Ergebnis ist erschreckend. Kahle
et le résultat est effrayant. Des versants de montagnes nus et déboisés, plus de gibier, plus de lynx, plus de bouquetin. Le loup n'est plus qu'un frontalier. Il y a bien sûr eu beaucoup d'érosion partout, parce que naturellement, la forêt maintient aussi les flancs raides. Il y a eu plus d'avalanches, parce que les forêts protectrices ont en partie fait défaut.
Hans Lotzer. Heute würde man sagen, eine ökologische Katastrophe.
Aujourd'hui, on dirait que c'est une catastrophe écologique. Mais une catastrophe écologique qui se produit aussi bien ailleurs, dans la région alpine et au-delà. La forêt suisse ne se porte pas bien.
Es sind dann drei Persönlichkeiten, die beschließen, etwas zu tun.
Ce sont alors trois personnalités qui décident de faire quelque chose. Elles décident non seulement de reboiser la forêt, mais aussi d'accomplir un pas supplémentaire. Il existe aujourd'hui un terme moderne, le rewilding. On essaye, je dirais, de rendre à l'état sauvage ou de faire disparaître d'anciens péchés naturels. Ces personnes prévoient de créer un parc national. Et le parc national n'est rien d'autre qu'une expérience consistant à abandonner complètement la nature à elle-même dans un endroit des Alpes.
Um das Jahr 1909 in Zernetz tauchen zu unterschiedlichen Zeiten drei Männer.
Vers l'année 1909, à Zernez, les trois hommes apparaissent à des moments différents. Tous les trois veulent transmettre cette idée à une population paysanne et pauvre. Laisser une région autour du col de l'Offen livrée à elle-même, afin que la forêt et la nature puissent se rétablir. Le premier, Johann Wilhelm Kotz, a grandi à Croire, ingénieur forestier de formation, puis inspecteur des forêts du canton des Grisons, inspecteur fédéral des forêts à partir de 1875 et créateur de la première loi fédérale sur les forêts.
Ich denke, war eine Person, die wirklich noch in diese Kategorie der Universalgelehrten gehörte.
Oui. Je pense que c'était une personne qui appartenait encore vraiment à la catégorie des savants universels. Il avait du mal à étudier les sciences forestières, à l'époque on ne pouvait presque pas le faire. Il a ensuite évolué en tant que géomètre. Il était toujours en route dans ces régions montagneuses et a bien sûr vu comment elles se développaient. C'était précisément l'époque critique où cette surexploitation avait lieu. Et c'est là qu'il a naturellement réfléchi. Le deuxième, Stevan Brunies, botaniste, professeur de lycée à Bâle, originaire d'Engadine et auteur de nombreux livres sur le parc national. Son père a réussi en tant qu'orpailleur aux États-Unis en Alaska. Il est revenu et a construit une grande maison, puis a pu faire étudier son fils. C'était un énorme privilège pour l'époque. Stevan Brunies a ensuite rédigé une thèse de doctorat consacrée aux conditions botaniques sur le col d'Orphen. C'était bien entendu quelqu'un qui aimait beaucoup sa région natale. Pour lui, l'Engadine était absolument sa patrie. Il s'y est énormément identifié. Il est ensuite parti enseigner la biologie à Bâle, où il est entré en contact avec Paul Sarrazin et son entourage. Et c'est lui, Brunies, qui, tel un ange, leur a donné l'idée de l'endroit où tel territoire pourrait être désigné, à savoir dans sa région d'origine, ici, en Engadine.
Der dritte, Paul Sarrazin, Vetter von Fritz.
Le troisième, Paul Sarrazin, cousin de Fritz Sarrazin, naturaliste, explorateur au Sri Lanka et à Celeb, tous deux descendants d'une famille qui a fait fortune dans le tissage des rubans de soie et du coton. Paul Sarrazin a été le cofondateur de l'Union internationale pour la protection de la nature. Paul Sarrazin et son cousin Fritz Sarrazin ont certainement joué un rôle central parce qu'ils sont issus d'une famille fortunée de Bâle et qu'ils ont fait des études d'écologie au lieu d'étudier l'économie. Et oui, ils ont fait des voyages à l'étranger, dans la lointaine Asie, et y ont tiré leurs conclusions sur le comportement de l'homme dans la nature. Et ils ont eu cette vision, compte tenu de la menace qui pesait sur la nature, de simplement soustraire complètement une partie de la Suisse à l'exploitation humaine et de préserver pour l'éternité. C'était une idée incroyable. En fait, irréalisable. Et une vision. Coaz, Brunies, Sarrazin, tous trois fondent la Ligue Suisse pour la protection de la nature afin d'entreprendre quelque chose d'unique dans le col d'Offen et de Zernez. Laisser la nature livrer à elle-même. Et observer avec une méticulosité scientifique comment la forêt se développe et retrouve un état sauvage sans aucune influence humaine. L'indemnisation versée aux communes, le soutien du Parlement à Berne et la mobilisation de la Ligue Suisse pour la protection de la nature permettent de réaliser ce projet le 1er août 1914. Le parc national suisse est inauguré en grande pompe.
Dort, wo früher kahle Bergflanken standen, wachsen nun neue Wälder, Pionierwälder vor allem.
Là où se trouvaient autrefois des flancs de montagne dénudés, poussent maintenant de nouvelles forêts, des forêts pionnières, surtout de pins de montagne. Les pins de montagne poussent bien, même sur un sol très pauvre. Et alors, un pas important pour la protection de la nature, pour la protection des forêts en Suisse, est franchi. Mais ce n'est pas tout.
Ich glaube, am Grund steht ein steigendes Interesse. Was wir seit dem 18. Jahrhundert sehen, mit ganz stark mit der Aufklärung, verknüpft ein steigendes Interesse.
Je pense qu'au départ, il y a un intérêt croissant que nous voyons depuis le 18e siècle et qui est très fortement lié au siècle des Lumières. Un intérêt croissant pour la nature.
Patrick Cooper, historiker an der Universität Innsbruck.
Patrick Cooper, historien à l'Université d'Innsbruck, auteur de Wildnisschaffen, eine transnationale Geschichte des Schweizerischen Nationalparks. Et ce, de manière très différente. Il y a un intérêt scientifique croissant, mais aussi un intérêt politique, un intérêt économique, esthétique, romantique pour la nature. Et ces intérêts forment de multiples liens entre eux. Et ils naissent au XVIIIe siècle avec les Lumières et se diffusent ensuite au XIXe siècle auprès de couches bourgeoises plus larges. Ces couches bourgeoises constituent la colonne vertébrale d'un nouveau regard sur la nature.
Dieses Interesse verknüpft sich dann zunehmend mit Beobachtungen, dass diese Natur.
Cet intérêt s'associe de plus en plus aux observations selon lesquelles cette nature est menacée, en voie de disparition. Et c'est là que nous arrivons au tournant entre le 19e siècle et le 20e siècle, lorsque de telles voix trouvent un écho grandissant et commencent à s'organiser. Et c'est là que Paul Sarrazin devient une figure très importante, non seulement pour la Suisse, mais aussi pour le monde entier, parce qu'il commence à rassembler et à organiser de tels intérêts et opinions.
Ein Einstehen für die Natur, die im Fall des Schweizerischen Nationalparks mit der Idee hier Wald.
Une défense de la nature, qui dans le cadre du parc national suisse, avec l'idée de laisser la forêt et la nature à l'état sauvage, n'était pas vraiment compréhensible pour les gens sur place.
Die verstanden das auch gar nicht, weil für die war das ein Lebensraum.
Ils ne comprenaient absolument pas, car pour eux, il s'agissait d'un espace vital, un espace qu'ils utilisaient de multiples manières. Les forêts pour l'extraction du bois, pour la cueillette, c'était des territoires de chasse. Et ces utilisations devaient maintenant être interrompues et plus rien ne devait être fait. En effet, derrière l'idée de parc national ne se cache pas seulement l'idée de protection de la nature et de la forêt, mais aussi une bonne partie de la théorie de l'évolution, plus précisément l'idée que l'humanité doit être classée en races dites de différents niveaux de développement, et qu'il s'agit de maintenir les peuples dits primitifs dans leur état naturel afin de pouvoir les observer avec une minutie scientifique. Paul Sarrazin et son cousin Fritz en particulier défendent cette idée que ces peuples dits primitifs doivent être isolés.
Indem sie für die Reservate schaffen wollten, die von außen dann nur für
en créant pour eux des réserves naturelles dans lesquelles seules des personnes spécifiques, les scientifiques eux-mêmes, pourraient pénétrer de l'extérieur et où il serait interdit à la population de quitter ces réserves. Ils devaient pour être, ainsi dire, y être conservés tels que dans leur mode de vie. La même image qui est utilisée ici vis-à-vis de la nature, qu'on la laisse se débrouiller toute seule et qu'on l'observe.
Und dabei beobachtet
und zuschaut, wie sie sich entwickelt.
Et qu'on la regarde évoluer. Dans le parc national, il y a donc au fond une idée de réserve, et donc aussi une bonne partie de regard colonial, dit Patrick Cooper, l'historien.
Diese koloniale Reservatsperspektive fließt ein in den Schweizerischen Nationalpark.
Cette perspective coloniale de la réserve s'inscrit dans le parc national suisse, mais aussi dans d'autres parcs nationaux en Europe et aux États-Unis. Ce que l'on considérait comme une nature sauvage, ces images étaient fortement marquées par les images qui venaient des territoires coloniaux qui venaient de l'ouest des États-Unis, c'est-à-dire des territoires que l'on s'imaginait à peine exploités et qui n'étaient exploités que par des hommes qui se trouvaient eux-mêmes encore dans un état naturel. Et cela signifie, on a imaginé des paysages naturels primitifs, peut-être encore peuplés d'hommes primitifs ou non. S'ils ne se comportaient plus de manière primitive, ils devaient être chassés de ces régions, où leur utilisation de leur espace naturel concerné devait être supprimée.
Aber was ist denn nun die Bedeutung des Nationalparks mit seinen verwilderten?
Mais quelle est donc l'importance du parc national avec ses forêts retournées à l'état sauvage et laissées à elles-mêmes pour la recherche forestière et l'exploitation de la forêt en Suisse dans son ensemble? Étonnamment, le transfert du savoir est tout d'abord plutôt faible.
Patrick Cooper, der Historiker.
L'association forestière elle-même ne participe pas à la création du parc national. Elle crée certes à la même époque quelques réserves naturelles, de petites réserves naturelles, mais ce courant de préservation de la nature au sein de l'association forestière est faible. Et cela ne va pas plus loin dans un premier temps et ne reprend que dans les années 1960. Et ce n'est pas comme si les connaissances acquises grâce aux observations faites dans le parc national étaient directement intégrées dans la recherche forestière et l'exploitation des forêts dans le reste de la Suisse. Nous constatons également dans le parc national, bien qu'une grande partie de cette surface soit une forêt, que la recherche sur le terrain n'intervient qu'avec un certain retard. Cela signifie qu'il y a un effet retardé. Je pense néanmoins que c'est important dans l'ensemble parce qu'il y a là de grandes zones forestières qui ont été observées pendant plusieurs décennies. Les séries d'observations sont donc nettement plus longues que dans d'autres régions. Et il en résulte des connaissances importantes, notamment pour des questions de succession naturelle. En d'autres termes, comment les forêts se développent-elles? Quelles sont les compositions naturelles des forêts, en particulier des forêts alpines? Cela peut être étudié ici avec une bien meilleure base de données.
Ja, ich komme vielleicht noch einmal auf Johann Wilhelm Coats zurück,
oui,
den damaligen.
Je reviendrai peut-être à Johann Wilhelm Coats, l'inspecteur fédéral des forêts de l'époque, qui a d'ailleurs occupé son poste jusqu'à l'âge avancé de plus de 90 ans. Il faut s'imaginer cela aujourd'hui.
Hans Lotza vom Schweizerischen
Hans Lotza du Parc national suisse.
Und er hatte sich wohl zum Ziel gesetzt, dass er sich
Il s'était sans doute fixé comme objectif de ne prendre sa retraite que lorsque le Parc national suisse serait créé. Et c'est ce qu'il a fait. Dès que le parc a été créé, il s'est retiré. Il tenait donc manifestement à pouvoir protéger une région de cette manière et à montrer comment elle évolue si l'homme n'intervient pas. C'était pour lui un exemple qui pouvait peut-être faire école dans d'autres régions.
Aber wie ist das? Wie lesen, wie verstehen,
Mais comment cela se passe-t-il aujourd'hui? Comment lire? Comment comprendre? Comment les visiteurs vivent-ils aujourd'hui ces forêts laissées à l'état sauvage?
Ja, das gibt dann spektakuläre Waldbilder, wo man fast mehr tote als lebendige Bäume sieht.
Nous nous trouvons face à des images spectaculaires de forêts, où l'on voit presque plus d'arbres morts que d'arbres vivants. Et lorsqu'on interroge les visiteurs, ils constatent, oui, ce n'est pas beau à voir avec ce dépérissement des forêts. Mais cela n'a rien à voir avec le dépérissement des forêts. Il s'agit d'un changement générationnel. Puisque pratiquement tous les arbres ont à peu près le même âge, cela saute aux yeux. Et c'est peut-être aussi un peu humain que l'on s'intéresse aux cimetières plutôt qu'aux jardins d'enfants. Parce qu'il y en a aussi, si on regarde par terre, beaucoup de jeunes arbres qui poussent, pas seulement de pins de montagne, mais aussi d'autres espèces. Nous sommes en train de changer de génération. Et il est certainement exceptionnel pour la Suisse que l'on laisse une forêt complètement livrée à elle-même. Une forêt sauvage, primitive, qui a peut-être un effet inspirant. Je pense que oui, c'est probablement aussi l'un des grands problèmes que nous avons en Suisse en ce moment. Nous sommes tellement désireux de faire bon ordre que nous avons aussi une crise incroyable de la biodiversité. J'espère qu'il y aura un jour une génération qui s'engagera vraiment avec beaucoup d'élan pour des forêts plus sauvages, parce que c'est urgent.
Im Wald, eine Kulturgeschichte. In dieser Episode ging es um die Bedeutung des Schweizerischen Nationalparks für den Schutz der Wälder in der Schweiz.
Dans la forêt, une histoire culturelle. Dans cet épisode, il était question de l'importance du Parc national suisse pour la protection des forêts en Suisse. Avec Hans Lotza, responsable de la communication du Parc national suisse, avec Patrick Cooper, historien et professeur d'histoire économique et sociale à l'Université d'Innsbruck, et avec les voix de Christophe Keller et de Ziad Elmaï. Ce podcast peut être écouté dans l'exposition et en dehors sur Spotify, Apple Podcasts et partout où il y a de bons podcasts, sur le site web du Musée national suisse. Le podcast « Dans la forêt, une histoire culturelle » est une production de Podcast Lab, www.podcastlab.ch.